Extrait de 5 nouvelles extraordinaires, Gustave le Rouge. Le spectre rouge. Au dessert, chez le grand banquier X, on parlait socialisme et réforme politique. Le repas, commencé selon les rites d'une cérémonieuse froideur, s'achevait, presque coude sur table, au milieu du heurt étincelant des opinions. Chacun proposait, pour l'attendrissement des dames, mille moyens d'amélioration au sort des déshérités. Les sentiments finissaient par venir à ces hommes de finance, aussi généreux que les vins qu'ils avaient bus. L'insolence du bonheur, sûr de lui, semblait, en ce tiède crépuscule estival, rafraîchi par la buée des sources invisibles dans la profondeur du bois, autour de cette table chargée de languissants bouquets, rayonnait cruellement, en une atmosphère quasi tangible, combinée du parfum des fruits, du bouquet des vins précieux, et de la saveur irritante des chevelures et des chairs moites. Dominant une ancienne et majestueuse forêt de chênes, le château découpait sur le soir les lignes sveltes de ses tourelles renaissance, la légèreté de ses balcons féerique temple à la beauté de vivre. On descendait vers les bois par une série de terrasses étagées, d'où l'on pouvait confortablement se rassasier du cercle viride de l'horizon houlant, comme la mer sous le vent du couchant. Seul tard vers l'Orient, une tache rouge et noire salissait ce paysage de paix. 7 cheminées d'usine, jaillies d'un pêle-mêle de bâtisses sans gloire, s'auréolaient d'une lueur de forge et inquiétaient du halètement de leurs machines le silence auguste des futaies. De tous les hôtes du banquier, le poète Pierre Chanteneuf avait peut-être été le seul à remarquer l'antithèse. Invité de hasard chez le fameux marchand d'or, il s'abstenait de la discussion qui suivait, de plus en plus animée et intéressante. Le cours prévu de ces sortes de joutes, enrichi de paradoxes à la manière de Barès et de citations du dernier Figaro, en somme, ce flux de réminiscences banales qui remplace chez les gens de bourse ou de politique les appréciations personnelles et l'émotion intelligente. Les vins et les mots avaient continué de se succéder, et le poète persistait dans le silence. Il s'indignait en son cœur de l'inconscience des riches, dont le bas satanisme se plaît à assaisonner ses joies de paroles hypocritement charitables. Les manieurs d'argent, conclut-il, jouent dans l'actuel combat social le rôle de ces vils valets de l'armée de jadis, qui s'attaquaient aux faibles, achevaient les blessés et coupaient pour leur anneau les doigts raidis des morts. Et il réfléchissait à l'amertume des nécessités qui le forçait à rehausser de sa mise modeste jusqu'à la fierté et de sa physionomie loyale et timide cette ripaille d'agioteur où les cristalleries polycolores et les vermeils ne reflétaient que d'odieux mufles humides et rougis du sang des pauvres. Pierre Chanteneuf, dont la claire vision pénétrait sous les apparences la hideur de ses âmes, souffrait énormément. La conversation, prétentieusement banale, l'engourdissait, telle qu'une drogue stupéfiante. Auditeur forcé, la seule impression qu'il éprouva en cet échange d'idées rebattues était une intolérable fatigue, pénible comme un cauchemar. Les noms des convives lui arrivant comme à travers un songe lui évoquaient des images de pinces ou de harpons, lestés d'un fait de pesantes consonnes judaïques ou germaines. Le repas avait pris fin et Chanteneuf avait réussi à demeurer presque inaperçu, à l'abri d'un proéminent boursier peu loquace après boire, et que la truffe et le cigare avaient la propriété d'engourdir à la manière des boas. On avait passé sur la terrasse, décorée de massifs de rhododendrons et d'hortensias, d'où jaillissaient les socles des statues. Au pied des convives, les feuillages bruissants du parc commençaient à s'enténébrer. le mystère de la nuit qui s'impose à presque tous les hommes et qui commande le recueillement des paysans et des pêcheurs n'avait pu endiguer le bavardage des invités. La discussion se faisait de plus en plus lassante, continuant à rouler dans son flot ce ramas d'idées quelconques que la presse verse chaque jour aux intelligences du commun. On eût dit d'une trahison préméditée contre la câline pureté de cette soirée. Rentré en lui-même, Chanteneuf suivait des pensées autres et son esprit en ce moment voyageait au pays de rêve, bien loin de ses dîneurs de hasard. Il se complaisait en des projets d'œuvres chèrement caressées et un peu de honte le prenait de se trouver là. Mais il était écrit qu'il ne finirait pas paisiblement cette soirée. Et bientôt, il dut sortir brusquement de sa songerie. Une jeune étourdie, qui l'avait entendu présenter comme poète et qui l'épiait pour quelques récitations, dénonça son silence. Aussitôt, ce fut un général acharnement. « Comment, chère madame, nous avons un poète et vous ne dites rien ? C'est véritablement impardonnable. Vous savez combien j'adore la poésie et les poètes. Vous nous direz une légende, plutôt ? Il commence à faire très noir sous les grands chênes. Qu'il nous dise ce qu'il voudra ! » Le côté des hommes était moins enthousiaste. Un groupe de vieillards, lourds de digestion et de calcul, ne se dérangeait même pas. Sans doute, décidé par l'espoir de les ennuyer tous, Chanteneuf commença, après s'être excusé de ne pas dire de vers, le récit d'une anecdote légendaire dont les faits s'étaient, dit-il, passés autrefois dans le pays même. Encore maintenant, le sérieux du paysage normand, monotonie de la mer et des verdures, douceur des pluies perpétuelles, conseille le respect des choses inconnues. Les paysans ont gardé la terreur des corbeaux qui, du haut des calvaires, fascinent les passants attardés et troublent leur esprit. Au bord des rivières, assombries par les feuillages funèbres des noyers, les revenants viennent laver leurs linceuls qu'ils exposent à l'influence de la lune. Les sentiers déserts sont souvent barrés de cercueils noirs et nuls, sous peine de mourir dans l'année, ne doit passer sans les avoir religieusement tournés bout pour bout. Ailleurs, c'est la miltoraine, une haute dame blanche qui grandit à mesure qu'on s'éloigne et dont la présence s'accompagne d'un bruissement surnaturel, d'un vent impétueux dans les grands arbres. Il y a peu d'années, la route actuelle n'existant pas, on suivait pour se rendre aux fermes une série de sentiers qui longeait de grandes pièces d'orge, de sarrasin et de colza. Ces sentiers aboutissaient à l'église, dont le cimetière ombragé de frênes et regorgeant d'une noire verdure est des plus mélancoliques que je connaisse. C'est ce chemin que suivaient chaque soir les filles pour revenir des champs, leurs cruches de cuivre rouge pleines de lait posées d'équilibre sur l'épaule. Vers l'automne, le bruit se répandit qu'une apparition hantait chaque soir la brèche de pierre qui sépare le cimetière du sentier. C'était un mort, enveloppé de son suaire, la figure invisible, ne bougeant pas. La vulgarisation des idées scientifiques, hasarda quelqu'un, dissipe peu à peu ces superstitions ridicules. Chanteneuf, sans relever l'interruption, continua de sa voix égale et un peu traînante. Il dit les terreurs des paysans, les touchantes croyances relatives aux âmes du purgatoire, la foi indéfectible des simples aux choses immatérielles. Son éloquence, toute vibrante d'indignation contenue, fit un moment frissonner tous ces jouisseurs à l'âme sordide, pour toujours captive au cercle infernal de la chair et de l'or. Sa parole, fraîche et profonde, avait le mystère. Et l'on eût dit, comme les pénétrantes rosées de la ténèbre montante, dont son récit évoquait les majestueuses angoisses. L'assemblée entière fut traversée d'un sympathique frisson, quand Chanteneuf décrivit les angoisses du valet de charrue, qui, chaque soir, s'enveloppait d'un drap pour jouer au spectre, et qui trouva un jour à ses côtés un immatériel et, celui-là, bien réel revenant. On releva le lendemain dans son suaire, raidi par le froid du matin, le cadavre convulsé du misérable farceur. N'est-ce pas Villiers de l'Isle-Adam qui dit « Si tu joues au fantôme, tu le deviendras » ? Au milieu du silence produit par cette conclusion, la voix d'un auditeur inattentif, sociologue absorbé sans doute en des plans de félicité future pour les pauvres, se fit entendre. « Pardon, mais la question du paupérisme, je saisis sans doute mal le rapport ?»« Il est bien simple pourtant, » articula le poète d'une voix sereine, en se tournant vers les rouges usines, maintenant flamboyantes, dans la nuit tout à fait tombée. Je crois que les heureux de cette société ne devraient pas tant s'amuser du spectre rouge. Et tous, s'étant tournés vers l'horizon vermeil comme le sang et comme l'aurore d'une chose inconnue, comprirent avec un tremblement la parole du maître. « Si tu joues au fantôme... » Spectre seul. L'ombre semblait pleuvoir avec les fluides hachures d'une averse qui fuyait interminablement d'un ciel enfumé, pareil de ton au ciment noirci par de terreuses infiltrations, comme si cette indigente ruelle et toute la maussade ville provinciale elle-même eussent été construites sous les voûtes fangeuses de quelques réservoirs souterrains. Déjà, la nuit se blottissait aux angles de la triste salle de café où j'étais assis. Une maladroite et rougeaude bonne n'en finissait pas de remonter, avec une foule de bruits agaçants, une demi-douzaine de lampes grinçantes. Et je bâillais, mortellement, endolori par le tambouronnement monotone des gouttes sur les vitres et le sourd pataugement des passants athées parmi les flaques d'eau sale. Bientôt, je m'aperçus que, depuis longtemps déjà, mes yeux distraits s'étaient fixés sur un homme, à la physionomie chagrine, qui, comme moi, semblait plongé dans le plus nauséeux désœuvrement. Ayant considéré attentivement, pendant que j'étais moi-même l'objet d'un pareil examen, son front dégarni, ses prunelles décolorées, ses paupières rougies et plissées d'une infinité de menues rides, sa lèvre inférieure pendante et son envahissante barbe grise, je fus saisi d'une soudaine pitié. Et, presque au même instant, avec une fulgurante rapidité, j'eus la conscience de posséder, au moins passagèrement, l'inexplicable pouvoir de m'immiscer aux plus intimes sentiments de l'inconnu et de m'identifier avec la substance de ses afflictions. Au moment où je l'observais, l'homme, dont le cœur paraissait vide et désolé, tournait toutes ses mélancoliques pensées vers les époques plus heureuses de son enfance. Le vivant et joyeux affairement de la ville maritime où il était né bruissait dans le lointain de son souvenir. Les spectres des choses passées se levaient avec les couleurs apâlies de l'oubli. Une opaque futaie de mâts s'érigeait avec des clairières de granit et de mer. De blanches digues s'allongeaient, portant très loin les grêles colonnes des phares. Par-delà les faubourgs de la ville se prolongeaient de vastes chantiers, penchant vers les bassins, les carènes des futurs navires, incessamment retentissantes, de martèlements cadencés. Derrière les poupes s'alignaient à l'infini de hauts et larges cubes de madriers de Norvège, laissant entre eux de stricts couloirs où nageait un parfum de résine. L'imagination de l'homme se faufilait dans les détours familiers de ce labyrinthe tapissé d'un gazon dru et frisé, sur lequel s'ébattait une gazouillante volée d'enfants aux mains souillées de goudron, aux vêtements attristés d'accrocs et de taches. Il concentrait toute sa puissance mémotechnique sur ces figures éparses, mais, des noms qui s'offraient à lui, il n'en pouvait articuler aucun d'une façon précise. Entre toutes, une vision l'arrêtait. c'était une agile et blonde fillette dont les pieds tannés d'un hâle salin frétillaient sous une robe bleue déteinte. Il se rappelait l'avoir un jour couronnée d'un diadème de coquillages et de ses chardons, caéruléens dont les racines rampent dans les sables, tels que des corps de grâce. Mais de même que ses autres compagnons d'enfance, disparus depuis lors sans qu'il eût conservé de relation avec un seul d'entre eux, l'enfant qu'il avait aimé était fortuitement parti au loin, et jamais plus il n'avait entendu parler d'elle. Poussant un soupir de regret, l'étranger poursuivit le cours de sa rêverie. Au chantier avaient succédé de petits jardins des bas quartiers, dont les carrés de choux rouges et de pommes de terre étaient séparés par de vivaces haies de sureaux ou de courbes épaves de navires égayées par des touffes capiteuses de romarin et d'angélique. Là encore, il reconnaissait beaucoup de figures d'amis. Par malheur, il y avait de longues années qu'il ne s'était pas enquis de leur situation, et il l'avait sans doute totalement oublié. À ce moment, un bref temps d'arrêt se produisit dans les fuyants rappels de cette imagination. Il me sembla que le rêveur éprouvait une complète fatigue, un écœurement absolu, et je ne vis plus rien. Cet état de prostration ne se prolongea pas. Comme le flot impétueux d'un jeune sang, de recrudescentes souvenances affluèrent vers la cervelle du solitaire. Une autre ville de la mer, située celle-là dans les dernières brumes septentrionales, s'offrit à lui. C'était en un quartier de matelots, éclatant d'un vacarme de rixes et de jurons, et sur lequel pesait un fumeux brouillard d'alcool et de tabac. Des trognes rubicondes, dans le brouillard, se balançaient avec de vagues sourires. Des servantes fardées, aux lèvres connues, versaient de brutales eaux-de-vie et de machinales caresses. L'étranger se récapitula amèrement les noms des camarades de son âge mûr. Il lui était devenu aussi inconnu que les amis de sa jeunesse. Alors, les paysages de sa mémoire varièrent encore. Et ce fut une île tropicale, endormie dans la splendeur des feuillages et des floraisons qui semaient leurs pétales vers le clair océan. Mais un long paquebot salit l'azur de ses cheminées vomissantes. Forcé par les circonstances, l'homme s'embarqua et, sur le pont, il agitait encore de vagues gestes d'adieu auxquels répondaient du rivage de plaintives mains féminines de plus en plus lointaines. Longtemps encore et vainement, l'homme compulsa tous les séjours et toutes les fréquentations de ses voyages. Du gouffre de plus en plus ténébreux de son souvenir ne surgissaient que des indifférents ou des morts. Une profonde lassitude d'âme l'envahit. Il constata avec désespoir qu'il était possédé par la solitude. À contempler la pluie de plus en plus copieuse et torrentielle, dans la rue de plus en plus déserte, la salle où la nuit s'installait et dont pendaient les tentures moisies, il se sentit un égal dégoût de partir ou de rester, et s'affaissa sur les journaux sans fois lus, sur les journaux crasseux et ressassés comme le reste. En cet instant, les lampes furent enfin apportées. Alors, je poussai un faible gémissement. Et il me parut qu'on m'entrait dans le cœur la pointe vive d'un glaçon. Car je venais de constater que c'était, dans le teint boueux de la glace, le propre reflet de ma face vieillie que je contemplais, et que c'était mon propre délaissement que je venais de distraitement scruter avec tant d'inutile et soigneuse cruauté. »